CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Pourquoi Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Avec ses milliers d'événements d'un bout à l'autre du pays, 2017 s'annonce exceptionnel.
Écoutez Popori Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popori Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. madame, monsieur, bien le bonjour que vous soyez, que ce soit dans l'océan Indien, Rennes, Paris, Montréal, Haïti et bien sûr les gens dans la région de Toronto, du Niagara, de Welland. Eh oui, ils sont nombreux à nous écouter, on était là hier. Ici Popourri Show, 30 ans déjà en direct sur www.cut.fm. Nos sincères remerciements à tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous soutiennent depuis 30 ans. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, production, animation, Eric Kader. Joignez-vous sur facebook.com/popourrishow ou encore sur Twitter, hashtag Popourri Show jusqu'à 13h. Et aujourd'hui, en ce dimanche 13 août 2017, entre ciel et terre, une invitation à un voyage agro-écologique au cœur du Maroc avec Maurice Fron et Pierre Rabhi, deux piliers du développement et du tourisme durable. Soyez des nôtres pour un voyage intelligent, responsable, placé sous le signe de l'échange et de l'agro-écologie. Collaboration spéciale Céline Devlet-Mazurel de RFI Paris. Et puis le 9 août dernier, c'était David Zimmer, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation du gouvernement ontarien, qui a souligné la Journée internationale des peuples autochtones avec la déclaration suivante. On estime que 370 millions d'Autochtones vivent dans le monde entier, soit dans 90 pays. Aujourd'hui, en cette Journée internationale des peuples autochtones, nous célébrons les traditions, les contributions et la diversité culturelle de ces communautés, notamment les centaines de milliers de Premières Nations, Inuits et de Métis qui vivent en Ontario. Et justement, à notre façon, nous allons reconnaître la contribution des cinéastes autochtones avec le cinéma qui roule, la caravane de diffusion de courts-métrages autochtones Wapikoni, qui continue sa tournée pan-canadienne amorcée en avril dernier et s'arrêtera au Native Canadian Center de Toronto le 14 août prochain à 18h. À ne pas rater, nous aurons le plaisir d'accueillir pour la première fois Jérômino Inutik. Il est projectionniste animateur de l'organisme Wapikoni. Eh oui, bravo. Dossier immigration, panique au sein de la communauté haïtienne aux États-Unis. Les choses se compliquent avec la nouvelle administration de Donald Trump. Et oui, surtout avec la montée du nazisme, des groupuscules d'extrême droite, on l'a vu hier en Virginie. La question qu'on se pose, pourquoi tant d'Haïtiens préfèrent risquer leur vie en traversant la frontière? Selon une enquête de RDI Radio-Canada, le gouvernement haïtien est à blâmer en partie car il incite des jeunes à s'exiler aux États-Unis et au Canada afin de pouvoir envoyer de l'argent à leurs proches en Haïti. Je vous rappelle que la ville de Montréal est prise d'assaut par les réfugiés haïtiens ces jours-ci. Citoyenneté et Immigration Canada est débordée. Plus près de nous, la communauté haïtienne de Toronto veut soutenir les demandes d'asile. Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, sera des nôtres dans la deuxième heure, à ne pas rater. Dossier LGBT international, savez-vous le pourcentage de la population canadienne qui appartiendrait aux communautés LGBT? Pourquoi l'association anti-LGBT One Million Moms a attaqué Disney la semaine dernière? Ça, c'était aux États-Unis. Attention, danger, vous êtes gay, lesbienne ou bisexuel et vous êtes haïtien ou vous désirez aller visiter Haïti, faites très attention car vous risquez votre vie, madame, monsieur, et oui. Et enfin, pourquoi le pape François décide de bénir l'union d'un couple homosexuel du jamais vu? Et oui, connu comme le blues de l'océan Indien, la musique traditionnelle de l'île Maurice, le Séga, permet d'exprimer la diversité qui caractérise ce pays très loin dans l'océan Indien et qui reflète l'influence des cultures africaines, indiennes, chinoises et françaises de cette île perdue dans l'océan Indien. Et le très populaire magazine CNN Inside Out Africa était à l'île Maurice et a rencontré notre correspondant, promoteur, producteur des artistes africains et créoles de l'océan Indien, Percy Iptong. On en fait le point dans la deuxième heure. La saison festivale, ou estivale plutôt, est bien entamée à l'antenne et chaque dimanche, nos DJ et nos radios partenaires vous présentent le playlist de l'été 2017 et découvrez le classement des meilleurs titres de la compilation de l'été de nos DJ chaque dimanche. Qu'est-ce que l'offre active en santé pour les francophones? Reflet Salvéo, l'organisme par excellence qui conseille le gouvernement ontarien sur les meilleurs concepts de soins en santé pour les francophones, vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 29 août 2017 à ne pas rater, 18h au collège Women's College Hospital. Women's College Hospital, situé à 76 rue Greenville à Toronto, pas très loin de College et Bay. Dans ces coins-là, c'est le métro Collège d'ailleurs. Il est important de confirmer votre présence au numéro suivant 647-345-5502 ou encore info@reflet-salvéo.ca pour tout savoir www.reflet-salvéo.ca. Voilà, le message est passé. Et enfin, découvrez les rendez-vous les plus chauds de nos partenaires cet été. Garantie avant la fin de l'émission. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et merci de votre fidélité. De l'été 2017, Toronto, ma ville, comme je l'aime, 30 ans déjà.
Toutes les musiques, les couleurs du monde avec RFI sur votre radio.
Et Et oui, nous essaierons, madame, monsieur, de contacter la Maison Blanche pour voir s'il y a un communicateur, un représentant, un membre des médias, pour nous expliquer un peu pourquoi le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas osé dire la vérité hier soir au monde entier sur ce qui s'est vraiment passé en Virginie. Pourquoi? Pouvez-vous vous imaginer un jour qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite, des nazis sur le campus de l'Université de Toronto? Imaginez. Mais attention, danger, cela peut se produire chez nous. On l'a vu à Montréal, à la frontière entre le Québec et les États-Unis, les anti-haïtiens, les anti-immigrants. Je n'ai rien compris, Monsieur Trump. S'il vous plaît, répétez après moi. Les buzz de nos médias partenaires. Merci à tous ceux qui nous appellent depuis 11h. Nos nouveaux partenaires, merci d'être là. Les professeurs, nouveaux professeurs, les étudiants de l'Université de Toronto, de Glendon aussi qui nous écoutent. Je vous souhaite une bonne rentrée 2017. Les buzz de nos médias partenaires du journal Express de Toronto, Francophonie en fait, se déroulera, madame, monsieur, si vous ne le saviez pas, du 21 au 30 septembre au Randolph. Où est Randolph? Et la distillerie district. Ça c'est très joli, ça me rappelle le vieux Montréal, avec des grosses pointures telles que Jean-Pierre Ferland, Charles Bois, Diouf et une vingtaine d'artistes. Article à lire absolument, signé François Bergeron. Maître François Boileau fête ses 10 ans en tant que commissaire au service en français de l'Ontario, poste qu'il occupe toujours d'ailleurs. Carole Jolin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le félicite pour son travail acharné et à l'amélioration des services en français dans sa province, dans notre province, l'Ontario. Selon Carole Jolin, il a fait avancer de nombreux dossiers pour la francophonie, notamment en s'appuyant sur la création des entités, ou en appuyant plutôt la création des entités de planification des services de santé en français, en convainquant les parlementaires d'adopter une définition inclusive de francophone et en moussant le projet pilote sur l'accès à la justice en français au palais de justice d'Ottawa. Saviez-vous que prendre son vélo pour aller travailler et revenir à la maison en ville est plus dangereux que d'utiliser l'auto ? L'automobile. L'activité sportive et écolo vaut en effet 30 micro-morts par 1000 parcourus contre 4 pour l'activité paresseuse et polluante. Tout le monde n'a pas la même appréciation des risques. Il y a un nouveau instrument là pour calculer les conséquences de nos activités sur notre espérance de vie, un article à lire dans l'Express de Toronto de cette fin de semaine. Dossier LGBT international, selon un dernier sondage intitulé « Réalité LGBT », 13% de la population canadienne appartiendrait aux communautés LGBT, 13% de la population canadienne appartiendrait aux communautés LGBT, pourtant par crainte, entre autres, d'être rejetés, que cela les empêche de progresser dans leur carrière, ou par peur de subir des moqueries et de l'intimidation, 54% des répondants LGBT n'ont pas fait leur coming out auprès de leurs collègues de travail, et encore moins de leur patron, auprès de leur patron, et 45% auprès de leurs collègues de classe à l'école ou à l'université ou au collège. Un autre grand enseignement de ce sondage concerne la jeune génération, 15 à 24 ans, chez qui le processus de questionnement sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle semble commencer plus tôt et mener aujourd'hui plus rapidement à une acceptation et à un dévoilement. Eh oui. Alors, aux États-Unis, par contre, les chaînes Disney Junior et Disney Channel qui diffusent depuis 2012 le dessin animé Docteur la Peluche est sous le télé des groupes anti-LGBT. Lors de l'épisode The Emergency Plan diffusé la semaine dernière, la série a montré un couple de mères lesbiennes et mixtes. Et le couple n'était en aucun cas stigmatisé, mais bien présenté comme un couple de parents normaux. Une association anti-LGBT, One Million Moms, a immédiatement attaqué Disney, accusant la société américaine de vouloir imposer ce modèle parental corrompu aux enfants. Sur leur site internet, ils n'hésitent pas à remettre en question ou en cause la sexualité de la créatrice de la série, Chris Nee, ouvertement lesbienne. Une des actrices d'ailleurs n'a pas tardé à réagir et je cite « En tant que membre d'une famille de deux mamans, je suis fier qu'il y ait un épisode reflétant le monde de mon fils et qui montre à tout le monde que l'amour est juste de l'amour dans ce monde », a-t-elle affirmé. Toujours aux États-Unis, la Commission de l'égalité des chances pour l'emploi des États-Unis a constaté que Sam's Club, l'entrepôt de détail appartenant à Walmart, a violé les droits du titre 7 d'un employé transgenre en Floride appelé Jessica Shine Robinson et l'a harcelé et en refusant les augmentations de salaire à cette dernière, des possibilités de promotion et ainsi que des soins de santé après qu'elle soit sortie comme trans. En 2011, le magasin avait d'ailleurs ajouté des protections pour les transgenres à ses politiques de non-discrimination des employés, mais en ce qui concerne le bilan général de la société sur les droits LGBT, au cours de la dernière décennie, le résultat est plus que mitigé. En Australie, les défenseurs du mariage homosexuel ont aussi voté récemment. C'était à la plus haute cour de justice australienne. Ils ont voté pour empêcher le projet du gouvernement d'organiser un vote postal sur le sujet. Incroyable. À Rome, oh oh, l'Italie, Italia. Le pape François ne finit pas de nous surprendre, madame, monsieur. Il a adressé, tenez-vous bien, par courrier, ses vœux de bonheur à la famille de Tony Ress et David Harrad, le responsable du groupe Dignité, qui représente la communauté LGBT de l'état de Paraná, dans le sud du Brésil. Le couple a reçu une lettre du Vatican de Monseigneur Paolo Borgia, conseiller du secrétaire d'État du Vatican. Selon nos sources, nous avons une copie d'ailleurs de cette lettre. Je dirais un document historique de la main sainte du pape. Et je cite, le pape François souhaite vous féliciter en appelant à l'abondance de grâces divines pour la famille afin de vivre constamment et fidèlement la condition des chrétiens. Les sources du Vatican ont minimisé l'importance de cette lettre en disant que le pape François essaie toujours de répondre positivement à des milliers de lettres semblables qu'il reçoit tous les jours. Tous les jours. Et en Haïti, rien ne va plus. Le Sénat haïtien, ça c'est dommage, hein, le Sénat haïtien, tenez-vous bien, a voté récemment une proposition de loi qui interdit le mariage aux couples de même sexe ainsi que toute promotion de l'homosexualité à travers le pays. Ce geste marque une profonde emprise religieuse. Les auteurs, co-auteurs et complices d'un mariage homosexuel en Haïti, risque une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 gourdes. Combien en dollars canadiens ça? Petit rappel, la Constitution établit que la République haïtienne est laïque, mais le caractère religieux des arguments avancés lors de la longue séance de vote pour justifier cette interdiction ne choque pas le président du Sénat. Il dit, et je cite, « Cette prédominance religieuse a agi au niveau de l'Assemblée et quoique l'État est laïque, ce sont des gens qui ont une loi qui sont aujourd'hui en majorité. » Ça, c'est Monsieur La Tortue. « Quand vous avez un pays, dit-il, il faut vous attacher à vos valeurs et à vos traditions. » À l'étranger, certains le voient différemment, mais en Haïti, c'est comme ça qu'on le voit, a-t-il répété, relayant l'idée répandue à travers le pays selon laquelle l'homosexualité est une pratique uniquement occidentale. À ma grande surprise,
c'est silence radio du côté du gouvernement de Justin Trudeau. Lui qui pourtant a défendu haut et fort le droit des femmes et des personnes LGBT en Afrique et en Europe. Monsieur Trudeau, où êtes-vous? Répondez à notre question, s'il vous plaît. Et oui, à ne pas rater hein, l'Assemblée Générale Annuelle de Reflet Salvéo, et il faut répondre. Allez d'ailleurs sur le site www.reflet-salvéo.ca pour te savoir, il faut vous inscrire. Bientôt à l'émission, nous allons recevoir professeur Alexis Chouap, nouveau directeur du département de français du campus Saint-Georges à l'Université de Toronto. Il est spécialiste des littératures et des cinémas africains et antillais. Pour tout renseignement relatif à nos émissions ou aux questions sur les possibilités de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse popourri@ciut.fm. Vous pouvez télécharger automatiquement les émissions et les réécouter quand vous le voulez, où que vous soyez, à travers le monde, www.popourrichaud.com.
C'est la danse des pieds. On y va.
Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Employeur, employé, connaissez-vous vos droits? Droit du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions.
congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître à la marche en direct à l'antenne. Entre ciel et terre. Invitation à un voyage agroécologique au cœur du Maroc. Et oui, chaque semaine, RFI vous invite à explorer toutes les facettes de la planète avec l'œil et la sensualité, ou la sensibilité plutôt, d'un voyageur curieux grâce à son magazine « Si loin, si près, si loin » ou « Entre ciel et terre ». Cette émission de reportage présentée par Ludovic Duneau et Céline Davlé-Mazurel vous invite à parcourir le monde au fil des rencontres et l'Europe, la France, par les chemins de traverse. Aujourd'hui, entre ciel et terre, vous invite un voyage agroécologique au cœur du Maroc avec Maurice Fron et Pierre Rabhi, deux piliers du développement et du tourisme durable. En novembre 2016, aux portes du désert, dans le royaume chérifien, Maurice et Pierre, deux piliers du développement et du tourisme durable, ont donné rendez-vous à une vingtaine de voyageurs pour une rencontre historique placée sous le signe de l'échange et de l'agroécologie. En effet, depuis plus de 50 ans, les deux hommes s'attachent à façonner un voyage intelligent et responsable. Et embarquant dans leur sillon, tels les prophètes, les adeptes à l'esprit militant en quête d'un monde plus solidaire et durable. Ensemble, dès 1980, ces deux amis ont initié au Burkina Faso le campement de Gorom Gorom, à la fois site touristique et centre de formation agroécologique pionnier. Aujourd'hui, c'est au Maroc que nous avons suivi retrouvailles africaines de l'homme du ciel et celui de la terre. Un voyage inédit organisé par Point Voyage à la découverte des initiatives agroécologiques marocaines du désert de Roche Agafé au village berbère de l'Atlas en passant par le carrefour des initiatives et pratiques agroécologiques initiées par Pierre Rabhi. Reportage de Raphaël Constant. Collaboration spéciale de RFI.
Si loin, si proche, découverte, le magazine des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bonjour. Dans le monde francophone du voyage en Afrique, c'était un vrai événement. Une rencontre au sommet qui a eu lieu en novembre 2016 aux portes du désert marocain entre deux grands hommes, deux monuments, l'un du voyage alternatif et l'autre du développement durable, Maurice Fron et Pierre Rabhi. Alors, si loin, si proche, on vous a déjà longuement parlé de Maurice, Momo, l'Africain, fondateur du Point Mulhouse, puis président de la coopérative Point Afrique. Un baroudeur, entrepreneur qui, dès les années 70, va révolutionner le ciel et ses échanges en démocratisant les vols charter et en ouvrant les zones les plus enclavées d'Afrique subsaharienne. Pierre Rabhi, lui, c'est le paysan philosophe, le frère d'âme de Maurice. Chantre de l'agroécologie, ce petit homme d'origine algérienne a fondé plusieurs mouvements écologiques pionniers en France, mais aussi en Afrique, contre la désertification et pour l'autonomie alimentaire. Ensemble, Maurice et Pierre vont rêver à un autre monde, plus respectueux de la nature et des échanges nord-sud, au Burkina Faso notamment. Et aujourd'hui, plus de 35 ans après ce premier projet africain écotouristique, voilà nos deux compères, à nouveau réunis, au Maroc cette fois. Des retrouvailles historiques que nous ne pouvions manquer entre l'homme du ciel et celui de la terre, deux prophètes qui à chaque fois, dans leur sillon, embarquent un tas de fidèles, des voyageurs qui eux aussi ont décidé de regarder le monde autrement, entre ciel et terre. C'est un reportage de Raphaël Constant.
Je peux vous demander ce que vous voyez dans vos jumelles ?
Mais il n'y a rien, c'est aride, de la caillasse, c'est tout. Je croyais qu'il y avait des chèvres là-bas, mais non, c'est les pires.
Et je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ce voyage ?
Ben, parce que je suis un coopérateur du Point Afrique, parce que je connais bien Maurice, et que Pierre Rabhi, ben, je le connais comme ça, mais ça sera une occasion pour voir qui est véritablement le bonhomme.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez que ça représente, ce retour de Maurice, ici au Maroc ?
Un très grand espoir, et même pour Pierre Rabhi, parce que ce que le Point Afrique avait mis dans les années 80-90 à Ngorongorom, c'est en train de se concrétiser ici, c'est formidable.
Ngorongorom, c'était un campement agroécologique au Burkina Faso.
Voilà. Exactement, à l'époque de Thomas Sankara. C'est amener une forme de tourisme écologique, donc apporter des subsides, apporter du travail et aller un peu à contresens de cette société uniquement consumériste. Oh, c'est joli là.
Face à nous, il y a des dunes plus sableuses et de la verdure au loin, enfin de la verdure. C'est vraiment beau, il se calme, c'est appréciable de
nous. Avec ce petit vent qui nous fait du bien, on a tout l'intérêt de ce type de rando. C'est très bon de pouvoir allier la randonnée et puis les échanges. Les échanges à partir desquels il peut se créer pas mal de connivence et de convergence surtout.
Je crois que c'est un petit peu la clé du développement, l'échange.
Absolument. Faire ensemble.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Céline.
Alors c'est entre randonnée dans le désert et conférence que l'on vous retrouve donc au sud de Marrakech. Une première d'ailleurs pour vous, le désert, Raphaël.
Oui, c'est vrai Céline, et j'en garde d'ailleurs un souvenir ému. Par contre, dans le groupe de voyageurs que j'ai suivi, comme Denis qu'on vient d'entendre, je pense que je devais bien être la seule. Le groupe était en fait constitué de 21 randonneurs écolos, aguerris au désert et plutôt seniors, puisque la moyenne d'âge était d'environ 60 ans. Et surtout, tous était admirateur de la première heure de Maurice Freund et Pierre Rabhi.
Alors ce circuit unique en son genre, proposé par Point Voyage, l'héritier de la coopérative Point Afrique, s'intitulait donc « Escapade agro-écologique au Maroc ». Tout un programme. Un programme donc qui a débuté par deux jours d'échange avec Maurice et Pierre. Et alliant en gros, c'est ça Raphaël, marche à pied et découverte d'initiatives marocaines autour du développement durable et du tourisme alternatif.
Oui, comme à Terre des Étoiles, un campement touristique et agro-écologique monté par un Français, Pierre-Yves Marais, installé au Maroc depuis 20 ans. Là-bas, au milieu des roches du désert d'Agafay, se dresse une vingtaine de tentes berbères au cœur d'un petit oasis potager avec vue sur les cimes enneigées du Toubkal.
Allez, on quitte les jumelles et on prend le micro.
Donc juste merci à Pierre et à Maurice de nous rejoindre aujourd'hui sur cette journée ici à Terre des Étoiles. Un projet qui a commencé, comme on vous l'a expliqué, en 2010 et sur lequel, sans le savoir vraiment, on est en train de reproduire ce que Pierre et Maurice ont fait à une autre échelle et dans une autre dimension au Burkina Faso dans les années 80. Quoi. Donc c'est assez émouvant pour nous de vous recevoir tous les deux ici aujourd'hui, puis qu'on puisse partager le travail à la fois d'accueil touristique et de végétalisation, surtout qu'on est en train d'entreprendre. Ça vous va ?
Allez. Je suis heureux de vous rencontrer.
Merci.
Vous avez fait bon voyage ?
Oui. Oh ben les voyages forment la jeunesse.
Vous vous sentez pas trop observé ?
Pardon ?
On ne vous gêne pas trop en prenant des photos ?
Non, ben j'ai l'habitude. Non.
On va laisser la scène alors présenter son jardin.
Là, ce qu'on voit, on a un petit jardin où il y a les légumes qu'on voit devant nous. Il y a les poivrons, les piments, la roquette, les carottes qui commencent à sortir. C'est les carottes. Et dans notre jardin, on n'utilise pas les produits chimiques, juste le compost qu'on fabrique, nous aussi, dans notre jardin.
Il y a des productions de bio actuellement ?
Oui. Là, ce que vous avez pris hier comme tisane, c'est la citronnelle.
Oh, magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est odorante.
Vous sentez l'odeur de la citronnelle.
Vous faites des salades?
Oui, on va voir là. Il y a déjà la blette, il y a la laitue, hein? Oui. Il y a la chicorée. Ah. Déjà, on va voir.
Thank you. Ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de faire quelque chose autour de l'agroécologie, puisque il faut savoir que Maurice Roen, le fondateur en fait de Point Afrique, dont Point Voyage est l'héritier, est un ami de très 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 longue date en fait de Pierre Rabhi.
Kevin Gérard, directeur de Point Voyage.
Je pense que inconsciemment, que ce soit Pierre ou Maurice, ont toujours eu envie de remonter des gorom partout ailleurs. Et puis Pierre Rabhi mène des choses, notamment avec le CIPA, donc un centre de formation à l'agroécologie à côté de Marrakech. Donc c'est tout cet ensemble de choses. Et puis c'est quand même intéressant également de pratiquer l'agrotourisme au Maroc, puisque le terrain s'y prête. Sous-entendu, on a un terrain désertique qui est quand même le terrain de jeu favori de Pierre Rabhi pour montrer que toutes ces techniques agroécologiques fonctionnent. Il y a un terrain de montagne qui nous permet d'observer un certain nombre d'initiatives agricoles justement dans le respect de la nature. Et puis il y a aussi une agriculture de littoral, puisqu'il y a l'océan Atlantique qui est à côté. Donc on est sur un terrain totalement propice.
Tout le monde se rassemble et puis on y va. Ça y est ? Les lunettes, le chapeau. Ça y est ?
Où est-ce qu'on va ?
Là, on va aller se balader dans ces collines désertes. Et après, on va arriver dans un village, un des rares villages qui sont restés animés. Et après, on retourne tranquillement au campement. Je suis Afida Doubane, je suis native de Marrakech. Et je suis la première femme guide à avoir décroché le diplôme. Donc ça fait au Maroc, oui. Et après, pour améliorer, je suis allée passer l'accompagnateur moyen montagne en France. Donc voilà, et ça fait maintenant 25 ans que... je travaille dans l'Atlas, le désert du Maroc. Venez, venez. Voilà, je vais juste vous donner l'idée où on est. Le massif du Toubkal qui monte à 4160 mètres d'altitude. Et là, c'était les petites collines, l'arrière-pays, qui étaient habitées par des nomades qui s'appellent la Rossiyine, qui sont venus de la côte ouest au sud d'Agadir. Donc il faut imaginer que ça a été vert, qu'il y a des rivières. Tout le monde a dit que c'est le désert. C'est un désert qui est fait par l'homme, normalement. Parce que je crois que ça fait 70 ans, à peu près, qu'ils ont commencé à penser à construire des barrages. Parce que Marrakech, elle a commencé à être plus grande et plus habitée. Donc ils ont sacrifié ce côté-là. Et le roi Hassan II a dit de quitter les lieux. Et c'est devenu le désert d'Agafay, le désert de Marrakech.
Vous entendez parler de Point Afrique ?
Ah oui !
Vous avez voyagé avec Point Afrique ?
Oui, j'ai voyagé sur l'Épinasse, sur le Niger, c'est ça ? Mauritanie. Là, c'était le fameux train. On faisait deux jours quoi, de train jusqu'à la côte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait encore ? Le sud algérien, Tamanrasset, tout ça. Le Tchad, dernièrement.
Faya Larjo, vous étiez Faya du voyage ?
C'est ça, oui. On était là. La première fois, c'était dans les années 90. Hein. Oui. On a adhéré à plusieurs, on était une bonne centaine hein, de coopérateurs. Oui. Lorsque le point de Mulhouse s'est transformé en Pointe Afrique, toujours avec Maurice Fall. Ils ont fait appel à des bénévoles pour devenir coopérateurs. Et puis bon, nous deux, quoi, on a spontanément adhéré.
Vous vous appelez comment ?
Jean-Pierre.
Moi, Sosten. Comme c'était un peu un voyage avec Maurice, avec Pierre Rabhi, tout ça, je me suis dit, on va sûrement trouver des anciens. C'est le cas, toi. Ouais. Moi, j'ai 71 ans, ouais, toi, 73. Je sais pas. Voilà.
Qu'est-ce que ça représente de repartir avec Maurice aujourd'hui ?
Ouais, c'est beaucoup d'émotions, quoi.
Oui,
il est toujours disponible, toi, pour discuter, pour toi, très ouvert, quoi. Ouais, très simple.
C'est un truc qui peut faire la paix dans certains endroits. C'est une arme de paix massive.
Maurice, c'est ça. Lui, c'est le défi en permanence. Quoi.
Et le défi dans la vie de Maurice Froon, c'était d'abord de combattre les monopoles aériens du TA et d'Air Afrique, de poser ensuite des avions et des touristes dans les coins les plus reculés du continent noir, tout en participant au développement local, puis de faire face à la montée du terrorisme dans le Sahara, et enfin, Raphaël, plus récemment, de lutter, c'est vrai, contre la maladie.
Pourtant, Céline, à 73 ans, l'homme est encore loin d'avoir renoncé. Quand je l'ai rencontré au Maroc, Maurice cherchait coûte que coûte à faire revenir des avions en Mauritanie. Et il préparait d'ailleurs aussi un nouveau vol vers Agadez, au Niger, qui a bien eu lieu en décembre 2016.
Alors, tout comme Pierre Rabhi, Maurice, c'est donc une voix qui aujourd'hui compte encore et porte, même si l'homme, c'est vrai, a plus de mal à s'exprimer.
Ah, bien sûr, ici au Maroc, c'est un peu nostalgique. Avec Pierre, ça va au-delà de l'amitié. C'est presque une relation familiale. Et à plusieurs moments de ma vie, j'ai eu besoin d'éclairages différents. Et Pierre Rabhi est devenu comme ça, un petit peu mon directeur de conscience. Voilà. J'ai toujours besoin de Pierre pour quelque part pouvoir réorienter mon activité, donner au tourisme une autre dimension que celle d'une exploitation à caractère capitalistique. Pour moi, le tourisme est une arme pour la paix.
Est-ce que venir ici avec Pierre Rabhi au Maroc, c'est une façon pour le point de revenir en Afrique sur des zones qui sont complètement accessibles?
Pour moi, Marrakech est une destination touristique. C'est bien. Kevin, qui a repris la suite des opérations, a besoin d'activité pour que l'entreprise en France ne disparaisse pas. Mais pour moi, c'est pas suffisant, quoi. Mon cœur, ma tête, elle est un peu plus au sud.
Dans l'Afrique noire.
Dans l'Afrique sahélienne, quoi. Et aujourd'hui, j'ai surtout une tristesse énorme. Non pas parce que l'entreprise ne marche plus sur le Sahel, mais ces centaines de familles qui ont pu vivre grâce à ça, et aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et je pense qu'on aurait pu éviter tout ça. Voilà. Et tout ça me donne un sentiment, presque un sentiment de révolte. Quoi.
On voit autour, et c'était un village parce qu'il y a des ruines. Parce que les gens, comme j'ai dit, ils ont quitté leur maison, comme il n'y a plus d'eau. Mais il y a d'autres qui ont survécu, comme là, on va manger là.
Alors, qu'est-ce qui nous accueille pour le déjeuner?
Ben, ça sera Lassen, le chef de la maison.
On peut aller lui dire bonjour, peut-être?
Oui, il n'y a pas de souci. Oui.
Alors, c'est une maison en quoi qui est construite en terre cuite, c'est quoi?
Ben, au départ, elle était construite en terre cuite. Et là, ils ont fait d'autres dépendances qui sont en ciment. Parce que c'est signe de solidité et de richesse. Donc l'intérieur de la maison, il est opisé. Et avec du torchis. Voilà.
Mais il n'y a pas de toit, tout est ouvert.
Oui, tout est ouvert. Voilà. Et voilà, c'est lui là, c'est le chef du village.
Bonjour.
Le chef de la maison.
Allez, cousine.
Et ici, c'est quoi? C'est la cuisine? D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de bon à manger?
Là, ils sont en train de préparer le tagine, le couscous, parce qu'ils ont deux autres personnes qui sont venues ici pour manger.
Donc, ils vivent du tourisme, en fait, cette famille?
Un peu, oui, là, ça commence, parce que la scène, là, sa femme est fait à manger quand les gens passent. Sinon, il a des dromadaires pour faire des balades. Et son fils, qui travaille carrément à Terre des Étoiles, là où on a été. Donc ça fait quand même travailler les gens du village.
Et ça fait combien de temps qu'ils reçoivent des touristes?
Ça doit être que 5 ans, 5-6 ans maintenant, que ça commence vraiment à faire bouger les choses ici, dans cet endroit à Gafay. Ouais.
Alors la femme de Larsen va faire cuisine avec le bébé dans le dos?
Oui, oui, oui.
Quel âge il a?
C'est moi, là?
Non.
2 mois. Il a à peine 2 mois. Ouais. Ça pousse, ça continue à faire grandir la famille.
Bon, on va les laisser cuisiner, peut-être.
Bah oui, on va y aller.
Merci.
Bonjour.
que j'aime bien quand je suis en groupe, partager des moments où je discute avec des personnes et avoir des moments où je suis toute seule. J'habite malheureusement en ville, donc je suis privée de ce rapport à la nature. Voilà que c'est beau. On a le lit de la rivière là en bas, je pense.
Pourquoi vous avez choisi ce voyage, Claudine ?
Une raison affective, parce que je suis née au Maroc, à Meknès. Et donc, c'était l'appel du pays. Une deuxième raison, c'est parce que je suis Pierre Rabhi depuis très longtemps. Et une troisième raison, c'est parce que j'ai un projet au Sénégal d'agroécologie et je trouvais que ce voyage était fait pour moi. Mon projet, ce serait d'accompagner quelqu'un dans une ferme, mais de mettre moi les mains dans la terre, quoi, de travailler avec quelqu'un qui s'y connaît, avec les traditions du pays, avec un mélange un petit peu de tout ce qu'on redécouvre.
Pourquoi vous êtes tournée vers l'agroécologie ?
Ben pour mes petites filles. Elles ont entre 9 et 26 ans et je ne voudrais pas qu'elles soient empoisonnées. Voilà. Pour les générations futures. Je me trouve très modeste sur ce que je sais aujourd'hui et sur ce combat que je voudrais mener pour que ça change. Mais je me dis aussi pourquoi j'ai commencé si tard. Qu'est-ce qu'il y a dans cette société qui fait que il faut avoir des cheveux blancs pour commencer à se dire « mais bon, ça va pas, ça devrait pas être ça ». Voilà. Il faut continuer, même à 70, à 80, à 90, n'importe quel âge.
Je crois que Pierre Rabhi utilise la métaphore du colibri pour expliquer ça. Voilà. Vous la connaissez ?
Oui.
Vous pouvez m'expliquer ?
Ce petit colibri qui voit cet incendie qui ravage toute la forêt et qui se dit « mais il y a de l'eau à côté ». Donc avec son petit bec, il prend une goutte d'eau et puis il va la mettre sur les arbres pour essayer d'éteindre l'incendie. Et le tatou lui dit « mais tu me fais rigoler quand même, ça sert à rien là, ce que tu fais ». Et le colibri de répondre « oui, mais je fais ma part ». J'y crois fermement, oui. Et aujourd'hui, je marche pour ça.
En marche vers l'autre, qu'ils vivent dans l'opulence des villes ou le dénuement des déserts ou des montagnes. En marche aussi pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, que ce soit dans les campagnes ou les zones arides. Et justement, d'autres potagers du désert nous attendent après les nouvelles du monde. On se retrouve donc dans 3 minutes, toujours au Maroc. A tout de suite. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Et oui, merci beaucoup à tous nos amis de Radio France Internationale. Je vous rappelle que dans la deuxième heure, nous allons débattre ou aussi voir les ponts qui existent entre les communautés haïtiennes et les organismes qui sont très actifs en ce moment pour venir en aide à ces nouveaux réfugiés haïtiens, ces Haïtiens qui demandent asile ici au Canada ou encore à Montréal, au Québec. Doit-on accueillir à bras ouverts tous les réfugiés haïtiens en 2017, demandeurs d'asile haïtiens, est-ce pour des raisons économiques ou climatiques, dit un journaliste montréalais. Il ne faut pas ignorer la colère et les menaces des groupuscules anti-immigrants, anti-réfugiés ces temps-ci, qui sont sortis de leur gonds. Et oui, alors Fougère Adolphe, président de la Maison haïtienne du Grand Toronto, sera des nôtres. Nous allons aussi, bien sûr, parler avec notre nouvel ami, Geronimo Inutik, projectionniste et animateur de Wapikoni. C'est cette caravane de diffusion de courts-métrages autochtones, Wapikoni, qui continue sa tournée et s'arrêtera cette fois-ci le 14 août prochain à 18h au Native Canadian Center of Toronto, pas très loin de Saint-Georges et Bloor. Alors, on aura le plaisir de l'accueillir et puis nous irons faire un petit tour avec le Séga mauricien, la danse, la musique folklorique de l'île Maurice, grâce à notre ami de toujours et correspondant Percy Iptong. Nous allons revoir, retracer un peu le Séga dans l'océan Indien, l'île Maurice. Grande couverture grâce à CNN International. Et oui, le magazine le magazine Inside Out Africa. Et oui, je vous rappelle aussi, bientôt à l'émission, nous allons avoir une émission assez spéciale. Existe-t-il un racisme systémique au Québec? Peut-on faire un parallèle avec les francophones issus des minorités culturelles en Ontario? Et comme vous savez, il va y avoir une série de consultations lancées par le gouvernement du Québec pour essayer d'étudier un peu, comme si on fallait étudier le racisme, comme a dit le président américain. Hier, la surprise de tout le monde, d'ailleurs, ça a suscité une colère incroyable. On l'a vu, côté républicain, démocrate, comme si qu'il fallait une étude pour voir c'est quoi le problème qui se déroule en ce moment avec les extrémistes de droite et les nazis aux États-Unis. Alors, nous allons essayer de parler un peu avec les têtes d'affiche au Québec et en Ontario pour voir s'il y a de l'exclusion ou assez ou pas assez d'inclusion des francophones nés à l'extérieur du Canada, mais aussi qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération des fois sur notre territoire, mais qui n'ont pas toujours leur place au soleil. Si cela vous intéresse à y participer, vous nous envoyez un message à popourri@ciut.fm. Popourri Show, 30 ans déjà sur votre fréquence. Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Thomas Schnell. Pour ramener le calme entre la Corée du Nord et les États-Unis, Emmanuel Macron s'est fendu d'un communiqué. Il appelle à la responsabilité de tous et à prévenir l'escalade des tensions. Le président français s'est aussi entretenu au téléphone avec Donald Trump samedi pour l'enjoindre à garder son calme. Deuxième échange téléphonique important pour le président américain. Quelques heures plus tôt, c'était le premier ministre chinois, seul allié de Kim Jong-un, Xi Jinping, a demandé à Trump d'éviter les mots et les actes qui pourraient exacerber les tensions. Donald Trump, qui condamne toutes les violences à Charlottesville, un rassemblement de l'extrême droite américaine a viré au drame dans l'état de Virginie, à l'est des États-Unis. Le bilan provisoire est de 3 morts et 19 blessés. Une voiture a foncé sur la foule des manifestants antiracistes. Un acte apparemment délibéré, le gouverneur a déclaré l'état d'urgence pour mobiliser le maximum de policiers. Tension politique en Amérique du Sud. À présent, Donald Trump menace d'intervenir militairement au Venezuela. Il souhaite résoudre la grave crise politique en cours. Des manifestations ont fait 125 morts et des milliers de blessés ces 4 derniers mois. Des menaces condamnées par le Pérou, même si le président péruvien est très critique envers Nicolas Maduro. Il estime que l'usage de la force brandi par Donald Trump menacerait la paix dans tout le continent. Plusieurs morts seraient à déplorer au Kenya, où des affrontements post-électoraux ont éclaté après la victoire officielle d'Uhuru Kenyatta hier à la tête du pays. L'opposition conteste toujours les résultats. Aujourd'hui, elle a évoqué une centaine de morts tués par les forces de sécurité kenyanes. Sans avancer de preuves, les agences de presse, elles, parlent de 11 morts. En Syrie, 7 casques blancs ont été abattus. Les secouristes étaient dans leur centre de Sarmine, une ville au nord-ouest du pays. Des inconnus sont entrés à l'aube avant de faire feu sur les volontaires, tous tués d'une balle dans la tête. 2 minibus et des talkie-walkie auraient été volés. C'est la première attaque de ce genre. Les casques blancs n'ont jamais revendiqué d'appartenance politique. Ils s'étaient fait connaître dans le monde entier grâce à leurs vidéos les montrant casques sur la tête se ruer dans les lieux bombardés pour extraire des survivants ensevelis dans les décombres. 9e journée des mondiaux d'athlétisme de Londres, grande victoire française. Kevin Mayer est champion du monde au décathlon. Au 4x100 mètres, c'est la Grande-Bretagne qui est sacrée championne. Et l'image symbolique est terrible. Usain Bolt se blesse et ne termine pas la dernière course de sa carrière. Du côté du 5000 mètres hommes, sensation avec la victoire de Mukhtar Edris. Au javelot, l'Allemand Johannes Vetter gagne l'or avec un jet à 89,89 m. Chez les dames, les Américaines remportent le 4x100 mètres et l'Américaine Sally Pearson remporte le 100 mètres haies. Il est 2h, bientôt 33 minutes. Merci d'écouter Radio France Internationale, la radio du monde.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Direction Île Maurice, CNN découvre les traditions du Sega dans Inside Out Africa. Atterrissons tranquillement sur l'île Maurice, 30 000 milles de Canada. Et oui, il fait très chaud là-bas, hein, ces temps-ci. Ben, c'est l'hiver. L'hiver des tropiques. La semaine dernière, la très populaire émission de CNN, Inside Africa, était à l'île Maurice et s'est penchée sur les traditions liées au Sega. C'est la musique traditionnelle, folklorique, du temps de l'esclavage à l'île Maurice et ses autres îles de l'océan Indien, qui ont aussi leur propre musique. Et oui, connu comme le blues de l'océan Indien, le Sega, comme le souligne CNN, permet d'exprimer la diversité qui caractérise l'île Maurice et reflète l'influence des cultures africaines, indiennes, chinoises et françaises. Et justement, notre grand ami Manitou, auteur, compositeur, traducteur, mais aussi il fait la promotion de plusieurs artistes à l'île Maurice ou créole de l'océan Indien, mais aussi africain, Percy Iptong, qui a expliqué à Inside Out Africa ce que ce genre musical représente pour les Mauriciens. Il dit, et je cite, « De par son statut de musique nationale, le Sega coule dans le sang de tout Mauricien, qu'il soit d'origine africaine, chinoise, indienne ou européenne. Le Sega, c'est ce qui nous rythme. Le Sega unit tous les Mauriciens. C'est la musique qui rassemble toutes les religions et toutes les ethnies de ce pays. Le son du Sega est généralement celui qui accueille les visiteurs se rendant dans l'île. On le voit dans les hôtels, sur les plages, avec les maravanes, les ravanes. Avec les instruments traditionnellement fabriqués à la main, offrant une expérience et un son mauricien unique, tout en préservant la mémoire historique de l'île ayant contribué à la création de ce genre musical. CNN s'est intéressé à la manière dont sont nées les traditions du Sega durant la période où les esclaves avaient été emmenés dans l'île au XVIIe siècle. La musique était ce moyen par lequel ils se libéraient. Il se libérait aussi l'âme et l'esprit. Inside Africa a rencontré plusieurs artistes, entre autres la chanteuse Lindsay Bagbot, une interprète du Sega contemporain, qui résume la manière dont l'expérience des esclaves a développé le son de ce genre musical jusqu'à sa forme actuelle. Sans plus tarder, nous allons vous faire voyager avec ce magazine. Malheureusement, je n'ai que la version anglaise seulement. Reportage en exclusivité de CNN International Inside Out Africa, version anglaise.
Sega is our traditional music. And the story of it, it's the beauty of it actually. It's when you go back to history, it's the way of expression from the slaves. So the way of music, the way they played it, the way they sang it, the way they dance it, and it's a way of freedom, to free their mind and spirit. That's basically what Sega is for me. The first place where Sega was ever heard in Mauritius was down to the foot of Mortai Lamon. The slaves, yeah, they run away from the masters and they find a place to hide, to live. Quand nous raconte nos histoires, période qui plie noire, les trous dans côte noire. They were living up there, the slaves. And then when it was announced that they finally was free, but they went there dressed officially with the guns to announce them freedom, hello, and they rather jump from this mountain, kill themselves, because they thought they were going back to slavery, back to torture, back to what they had before. Yeah.
Mauritius is not only about beautiful hotels, it's not only about lagoons or beaches or the sun. Mauritius, first of all, is about the people. It's about the melting pot. It's about the beauty, how different people can connect together. We're blessed people. Everywhere you go, you'll see a smile on your face and a heartbeat. Our soul will stay Sega Music.
Moti invité dans ma boucou, maman fin invité dans ma boue. Et tant qu'il me rend dans ma boue, motan 4-5 ravana pebate. Ravane pebate avec soma, ravane sakouye. Triangle, triangle, la bakitina, c'est gamma guetté. Abisé batli, près d'un beau père, kouma, babisé batli, près d'un belle-mère. Abisé batli, près d'un beau père, laisse-lui danser, gars, s'asseoir là. J'ai invité dans ma boucou, ma mofine invité dans ma boue.
Allez, enfin, maman.
Et tant qu'il me rend dans ma boue, motan 4-5 ravan a pebate.
Sauvez-le, maman.
Ravan a pebate avec soma, ravan sakouye. Triangle, triangle, la bakitina, c'est canoë guetté. En arrivant dans ma boue, les temps fin arrivent dans ma boue. En arrivant dans ma boue, motan qui l'aime, Marie fait santé.
À nous aller!
Oh, tu l'es le lilé! Oh, la la lilé!
Et oui, là, ce que vous entendez en ce moment, c'est le Sega typique de l'île Maurice, avec pas tellement d'instruments électriques. Hein, c'est seulement des ravanes, des maravanes, des instruments construits à la main. Et justement, CNN s'est entretenu avec Bruno Raya pour Inside Africa, qui a expliqué comment cet amalgame permet de garder la mémoire du Sega vivante, tout en rendant le style musical plus attrayant pour une nouvelle audience. Il a dit... C'est du 100% mauricien. C'est important pour nous de promouvoir cette musique. Vous ne pouvez pas parler du Sega sans parler du Sega comme nous l'avons toujours maintenu. Il n'y a que deux styles de musique qui appartiennent aux Mauriciens. L'un est né durant la période de l'esclavage et l'autre après l'indépendance. Pour des musiciens comme Lindsay Bagbot, d'ailleurs qui était en tournée en Europe avec Percy Iptong, le Sega a fini par incarner la pluralité ethnique que l'on retrouve dans l'île Maurice moderne, tout en véhiculant la mémoire et les traditions du passé. Se penchant sur ce point, elle a déclaré à CNN « Nous cherchons l'évolution. C'est extrêmement important quand il s'agit de notre identité. L'île Maurice, c'est avant tout les gens. » C'est le bouillon des cultures, c'est la beauté de différents peuples qui s'unissent. Nous sommes un peuple béni. Partout où vous allez, vous voyez un sourire sur notre visage et notre cœur ainsi que notre âme reste le Sega. Bravo à CNN et bravo à Percy Iptong et tous nos partenaires de nos radios partenaires. Et salut spécial hein, à tous les auditeurs mauriciens qui nous écoutent sur Internet. Ciao.
Pourquoi donc la moitié de la planète s'active quand l'autre dort?
En principe, c'est les passagers, c'est eux qui mettent de l'ambiance.
Apportez-moi plutôt une glace.
Vivez au rythme du monde. Écoutez RFI.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Héroe.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto.
Alors que nous débattons de l'accueil ou du refoulement des Haïtiens à nos frontières, plusieurs ont fait remarquer que le terme « réfugié » ne s'appliquait pas à cette population. Car pour être réfugié, disent-ils, il faut fuir la persécution ou encore un risque important de craindre pour sa vie si la personne est forcée de retourner dans son pays. Mais qu'arrive-t-il quand ces migrants fuient la famine, la sécheresse et les phénomènes climatiques extrêmes dus au changement climatique? Sont-ils des réfugiés climatiques? Selon certaines sources et un reportage sur RDI Canada ce week-end, Radio-Canada, certains officiels du gouvernement haïtien encourageraient des jeunes haïtiens à quitter leur pays afin qu'ils puissent envoyer de l'argent à leur famille. Une rentabilité financière pour l'économie haïtienne, disent-ils. Doit-on accueillir à bras ouverts tous les réfugiés haïtiens en 2017. Demandeurs d'asile haïtiens, est-ce pour des raisons économiques ou climatiques? Il ne faut pas ignorer la colère et les menaces des groupuscules anti-immigrants qu'on a vu, les anti-réfugiés au Québec, qui sont sortis de leur gonds. Pendant ce temps, plusieurs organismes canadiens, québécois, torontois s'organisent et se mobilisent en guise de solidarité pour les réfugiés haïtiens. Dans un instant, Fougère Adolphe, président de la Maison haïtienne du Grand Toronto. Eh oui, bonjour cher Fougère Adolphe, comment ça va?
Ça va bien, bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, l'émission pour pourri.
Oui, merci d'être des nôtres ce matin. D'année en année, mon cher ami, on voit très peu de progrès, malheureusement, pour le bien-être des Haïtiens dans votre pays d'origine. Pouvez-vous me dire ce qui se passe vraiment dans ce pays qui jadis était la perle des Antilles?
Effectivement, Eric, il y a des choses qui se passent au niveau du pays. Et maintenant, nous avons nos compatriotes qui sont arrivés au Canada. Certains sont bien accueillis par les Québécois. D'autres ont été mal accueillis parce qu'il y a des groupuscules, comme vous venez de dire, qui ne veulent pas l'arrivée des Haïtiens. Il faut dire la vérité, Eric, depuis 2010,
Le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre. Ouais. Et par la suite, le cyclone qui a ravagé Haïti, il y avait des gens qui se sont laissés le pays en direction du Brésil ou bien du Chili. Et maintenant, ces gens, certains d'entre eux ont une résidence permanente, soit au Chili ou au Brésil. Peut-être les conditions d'existence. Par exemple, au Brésil, les gens ont été recrutés pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde s'est terminée, il n'y a pas de boulot et certains d'entre eux sont émergés vers les États-Unis. Et aujourd'hui, là, avec les menaces du président Trump, les gens ont dit abandonner pour se rendre au Canada. On comprend la situation. Des gens disent que ce sont des réfugiés politiques. D'autres disent que ce sont des réfugiés humanitaires.
Et vous savez que le président américain est très, très dur quand on parle de l'immigration. D'ailleurs, même l'immigration, entre guillemets, normale, est remise en question en ce moment aux États-Unis, n'est-ce pas?
Oui, c'est bien sûr. Et je pense que face à cette menace, les gens sont obligés de laisser les États-Unis. Mais à titre d'information, je dois rappeler aux gens ce qu'ils disent, ce sont les gens qui ont le TPS. Les gens qui ont le TPS n'ont pas laissé les États-Unis jusqu'à présent parce que ces gens ont bénéficié d'une couverture légale. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer les gens qui arrivent. Je leur ai parlé et la majorité des gens qui sont là présentement, ce sont des gens qui ont été au Brésil ou au Chili, qui, ou au Mexique aussi, qui sont émergés vers le Canada. Par contre, je sais que le gouvernement haïtien de son côté, c'est un gouvernement jeune de 6 mois, il est en train de mettre des structures, mais vous savez déjà, avec le tremblement de terre, le cyclone qui vient de passer, et autres, ce n'est pas une situation aussi facile, un gouvernement qui a 6 mois ne peut en aucun cas, en aucun moment, demander, comme on dit, à ses cerveaux de laisser le pays pour aller immigrer ailleurs. Je ne crois pas. Oui. Au contraire, actuellement, le gouvernement vient juste de créer une commission. Et à travers cette commission, il crée une banque pour mettre de l'argent à la disposition des jeunes qui sortent de l'université pour pouvoir créer leur propre entreprise pour empêcher les cerveaux d'aller ailleurs. Malheureusement, et on a mal interprété la situation, le gouvernement haïtien ne demande pas à ces jeunes de laisser le pays. Au contraire, le gouvernement, bien que jeune de 6 mois, prenne des dispositions pour permettre à ces gens de rester dans le pays. Et je ne vois pas pourquoi, à travers cet reportage, je me sens mal à l'aise d'entendre Radio-Canada disant que le gouvernement demande aux jeunes de fuir le pays. Au contraire, si j'ai bien écouté la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui était de passage dans le pays, elle a dit clairement, le gouvernement est en train de travailler, de mettre des structures pour permettre la fuite de cerveau des Haïtiens qui sont émergés, ces Haïtiens qui ont contribué à l'éducation des Québécois, ces Haïtiens qui ont contribué à l'économie canadienne, de retourner, de venir donner un peu de ce qu'il a aux jeunes de nos pays, à la communauté haïtienne à l'intérieur de ce pays. Mmh. Je pense que nous sommes dans une situation très difficile. C'est vrai, nous constatons, nous avons des compatriotes qui viennent du Canada, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres communautés, il y a même des Européens, on ne l'a pas dit. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des Russes, des gens qui sortent de la Tchétchénie et des Arabes, des Africains. C'est vrai, la communauté haïtienne, c'est à 60%, comme a dit le maire Coderre, mais ce n'est pas seulement les Haïtiens. Je me pose la question, pourquoi le tollé se fait autour de la communauté haïtienne et pourtant on ne parle pas des autres communautés qui arrivent?
Mais, alors, faut dire qu'il y a quand même beaucoup de soutien face à ces nouveaux demandeurs d'asile haïtiens qui arrivent en grand nombre sur le sol québécois et entre autres à Montréal. On a vu la ville de Montréal, le gouvernement du Québec qui a ouvert ses portes, et d'ailleurs c'était le stade olympique, hein, l'ancien stade olympique qui a hébergé pendant quelques temps, et je pense que ça va durer jusqu'au mois prochain, mais aussi il y a beaucoup, un élan de solidarité de la part de beaucoup d'organismes québécois et canadiens, et il faut beaucoup de travail, je pense, de communication pour expliquer, comme vous le faites si bien en ce moment, Monsieur Fougère-Adolphe, sur la situation délicate des Haïtiens qui sont actuellement aux États-Unis. Et les gens ne viennent pas, ne demandent pas asile politique ou se déclarent réfugiés de bon gré comme ça, parce que c'est très difficile de se déraciner de son pays, n'est-ce pas, de son pays d'origine. Mais justement, comment faire pour que les organismes comme la Maison d'Haïti et les autres organismes qui soutiennent les Haïtiens, les nouveaux réfugiés qui arrivent, que doivent-ils faire pour justement contrer ces informations fausses? Parce qu'on a dit que oui, il y a quelqu'un qui a démarré une page sur Facebook pour pousser les Haïtiens à quitter les États-Unis et venir au Canada, parce que soi-disant au Canada, on va fermer les yeux, ça va être plus facile, plus simple pour vous de devenir citoyen canadien. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme ça qui se sont passées là récemment dans les journaux et dans les médias.
Effectivement, Eric, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et généralement, les gens, une fois regardés ou bien écoutés quelque chose, quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, ils s'engagent. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer avec une dame. Elle a sa résidence permanente aux États-Unis. Ses enfants sont nés aux États-Unis. Le fait que son mari n'a pas de papier, elle a dû laisser le pays vers le Canada. Et alors, cette personne n'a même pas besoin de visa pour se rendre au Canada. ces enfants sont nés aux États-Unis. C'est parce que des informations circulent. Maintenant, je pense, nous, au niveau de la maison d'Haïti, on est en train de véhiculer des informations à l'intérieur du pays et à travers les organismes qui sont aux États-Unis pour dire aux gens que le Canada, ce n'est pas la terre promise. La question d'immigration n'est jamais facile. Généralement, selon les enquêtes que j'ai menées, c'est 60% des gens qui demandent l'asile, généralement, qui ont eu la chance d'avoir l'asile, d'accepter au pays. Et je pense, à l'intérieur du pays, que le gouvernement est en train de sensibiliser à travers des émissions pour demander aux gens de ne pas laisser le pays, parce que une fois laissé le pays, ça ne vous garantit pas la possibilité d'avoir la résidence permanente ou même d'être accepté au Canada.
Combien de gens qui ont sollicité votre appui, parce que vous avez mis sur pied, je pense, système de soutien pour les gens qui veulent venir à Toronto, en Ontario, ou même rejoindre leur famille. Combien de personnes, avez-vous une idée des statistiques de gens qui ont voulu traverser, quitter Montréal pour venir s'installer à Toronto, ou qui demandent asile à Toronto?
Et jusqu'à présent, j'ai reçu beaucoup d'appels, mais les gens ne sont pas encore émergés vers l'Ontario. Je pense que ça va venir parce qu'au niveau de la communauté haïtienne, au niveau de la maison d'Haïti, Perspective et autres, il y a eu des rencontres et maintenant il y a une structure qui a été mise en place pour accueillir ces gens qui sont arrivés et il y a des démarches qui sont en train d'être entreprises auprès du gouvernement provincial et auprès de la ville pour voir comment on pourrait accueillir ces gens dans la dignité s'ils arrivent.
Quelle est la position de l'ambassade d'Haïti à Ottawa?
J'ai eu la chance d'écouter l'ambassadeur. Lui, il n'encourage pas les gens à venir et c'est normal. Et si les gens arrivent, on demande aux organismes, comme c'est déjà le cas, il y a beaucoup d'organismes haïtiens comme je l'ai rencontré, ne demandez pas au gouvernement canadien qu'est-ce que vous allez faire pour nos compatriotes. C'est à nous d'abord d'apporter notre solidarité et ensuite viendra la solidarité du gouvernement québécois, ontario, canadien. Et je pense que l'ambassadeur n'encourage pas les gens à y venir, mais par contre, les gens qui sont déjà sur le territoire, ils ont demandé, ils ont parlé à leurs collègues, au gouvernement, de donner un traitement comme humain à ces gens en attendant que l'immigration se prononce. Parce que vous savez, Eric, le gouvernement haïtien ne peut pas se prononcer sur la question de l'immigration canadienne. Et ça revient au gouvernement canadien d'en décider. Mais la seule chose qu'on peut demander, comme c'est un pays ami, de bien traiter nos compatriotes en attendant qu'ils suivent le coup légal passé par l'immigration. Ceux qui ont été acceptés vont avoir leur résidence permanente, mais ceux qui vont déporter, je vous assure que le gouvernement, quelles que soient les conditions, malgré la situation précaire en Haïti, ce sont des Haïtiens et le gouvernement va les accueillir. Mais j'aurais souhaité, comme je sais déjà la situation du pays, même en situation humanitaire, que le gouvernement canadien prend en charge ces réfugiés et leur accorde leur demande humanitaire ou d'asile politique, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que j'ai été à Montréal, j'ai rencontré des gens, on les a accueillis sur la frontière, ils n'ont pas fait une demande d'asile politique au moment où je parle.
Oui.
Alors, les gens doivent se présenter à l'immigration pour avoir un rendez-vous, et une fois avoir le rendez-vous, apporter ses dossiers, c'est par la suite on va savoir s'il va faire la demande et si c'est une demande humanitaire ou une demande d'asile politique.
Oui, alors il y a deux organismes qui ont émis un communiqué de presse. C'est un projet de soutien aux demandeurs d'asile haïtiens. Numéro de téléphone, de contact, et aussi nous allons suivre ce dossier de très près. Malheureusement, le temps fait défaut. Et tenez-nous au courant des développements. Envoyez-nous tous les documents possibles afin de pouvoir aider les auditeurs à comprendre cette situation délicate des Haïtiens. Numéro de téléphone, contact, site web, si vous en avez, Monsieur Fougère-Adolphe.
Oui, si, on peut m'appeler au 647-712-1968 et mon email c'est le maisondhaiti@commercial.gmail.com. Et on peut m'appeler aussi adolphe26@commercial.gmail.com. On me envoie tous les messages nécessaires que nous sommes là pour accueillir nos compatriotes, nous sommes là pour les conseiller aussi. nous sommes là pour les sensibiliser à ne pas laisser les États-Unis ou bien Haïti pour venir se réfugier au Canada. Et nous savons déjà que l'immigration n'est pas une chose facile, mais les compatriotes qui sont déjà à l'intérieur du pays, c'est notre devoir en tant qu'organisme, en tant que compatriotes haïtiens, de les accueillir, de leur donner tous les encadrements nécessaires pour pouvoir s'intégrer au sein de la communauté canadienne.
Merci beaucoup, M. Fougère-Adolphe, président de la maison, la maison d'Haïti du Grand Toronto. Et on vous dit encore une fois merci et bon courage. Tenez-nous informés. Bon dimanche.
Merci Eric. Au nom de la communauté, je vous en remercie de nous avoir accordé l'opportunité de parler avec nos compatriotes.
Merci.
La compilation la plus glamour de l'année vient Zouker Volume 5. Mixé par DJ Wilson. 19 tubes des années 80 et 90. Enchaînés plus 3 inédits. Darius Denon. Ways.
Laisse-moi une chance près de moi. Baby, je t'en prie, fais-moi confiance.
Et le tube de ses vacances, Jean-Marie Ragal. Viens Zouker Volume 5 by DJ Wilson. Déjà dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
Anessa, n'a fêté 60 ans, compas. Sans question de code, code sous code. Wilkins, déposez, déposez.
Pourri Show, 30 ans déjà sur votre fréquence.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Le cinéma qui roule arrive enfin à Toronto. Le Wapikoni Mobile est un studio ambulant de formation et de création audiovisuelle et musicale dédié aux jeunes autochtones. Depuis 2004, De milliers de participants du Wapikoni, issus de 20 nations, ont participé à la réalisation de près de 1000 courts-métrages traduits en plusieurs langues et récipiendaires de 146 prix et mentions dans des festivals nationaux et internationaux. Le Wapikoni bénéficie du patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO qui fait le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle assure la promotion des valeurs, priorité entendre la voix des experts de la société civile à l'international. La caravane de diffusion de courts-métrages autochtones Wapikoni, le cinéma qui roule, continue sa tournée pan-canadienne amorcée en avril dernier et s'arrêtera au Native Canadian Center of Toronto le 14 août à 18h à ne pas rater pour présenter une collection de films prises ayant voyagé dans les plus grands festivals, par exemple Sundance au marché de films de Cannes en passant par le RIDM et le TIFF. Eh oui, très très connu. Tous réalisés par des cinéastes émergents issus de communautés autochtones du Canada. Dans un instant, madame, monsieur, nous allons accueillir avec grand plaisir Jeromino Inutik, projectionniste animateur de Wapikoni. Eh oui, bonjour Jeromino, comment allez-vous?
Hey, bonjour Eric, bon, ça va très bien. Merci pour cet accueil très chaleureux, bien heureux d'être parmi vous sur l'émission.
Oui, vous savez que c'est tout un honneur de vous accueillir parce que je pense que nous ne parlons pas assez des cultures autochtones dans nos médias. Et cela nous donne l'occasion, et d'ailleurs on a fêté, célébré la journée autochtone récemment. Ici il y a eu des déclarations de la part du gouvernement de l'Ontario. Alors, donc, c'est, moi je trouve ça formidable ce projet. Parlez-moi un petit peu justement de la jeunesse. Comment tout ça a débuté, le cinéma qui roule par exemple?
Oui, bon, ben, c'est un grand honneur pour moi d'être en mesure de présenter les films du projet de Wapikoni Mobile. Donc, comme on a entendu, Wapikoni existe depuis plusieurs années, depuis plus que 13 ans maintenant. Et puis, le principal but du projet est de donner des voix cinématographiques à des jeunes, leur donnant des occasions au travers des ateliers de création cinématographique de s'exprimer au travers la musique, le film. Et puis, c'est vraiment incroyable le projet, comment ça a pu rayonner au travers des diffusions dans des festivals au fil des années. Et puis, les voix qui en ressortent, c'est vraiment incroyable. Puis, le cinéma qui roule, le projet sur lequel je suis, c'est la première année qu'on fait cette tournée-là. Le but de cette tournée est vraiment de faire connaître les différences voix qui peuvent être issues des différentes communautés autochtones qu'on a et puis de faire connaître le projet de Wapikoni Mobile qui existe maintenant et puis qui se fait connaître bien dans le monde francophone au Québec et puis on commence à prendre expansion avec nos caravanes de production. Et puis, on cherche à rejoindre d'autres communautés, à créer des nouveaux ponts, à partager ce merveilleux projet-là avec davantage de communautés au Canada. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de faciliter ces projections-là au travers le cinéma qui roule. On offre des projections à des communautés avec cette tournée-là. Le cinéma qui roule traverse le Canada. On a quitté Vancouver en avril et puis on va arriver, on compte arriver dans les Maritimes en novembre.
Donc, vous savez, c'est aussi une façon, je pense qu'il y a quelque part, j'ai vu que Maggie Campagne, d'ailleurs du Native Canadian Center of Toronto, que je connais bien, qui dit « Grâce au projet Wapikoni, d'un océan à l'autre, la réconciliation par les arts médiatiques médiatique, les jeunes Canadiens autochtones auront la chance de se faire entendre et d'échanger. Et je pense ce mot « réconciliation », parce que c'est le mot qui a aussi fait la manchette lors du discours du Premier ministre canadien pour ce 1er juillet 2017, lors de célébration du 150e anniversaire du Canada.
Oh, ben oui, c'est des enjeux très importants. C'est un mot très important, oui, qui a une signification très importante. Mm. Ce qui se passe avec ce projet-là, c'est que le but est vraiment de créer des ponts entre les différentes communautés, puis ça se voit au travers des projections. Puis ce qu'on se comprise avec ce projet-là, c'est de dire que les films proviennent de communautés autochtones. Les films sont faits par des jeunes autochtones. C'est leur voix, mais c'est pas juste des voix à des communautés autochtones. C'est tous des enjeux. C'est des enjeux qui nous rejoignent tous. Puis on devrait apprécier le fait que ces jeunes-là puissent nous parler au travers de cette plateforme-là. Parce que ils parlent d'enjeux qui sont très importants, qui nous rejoignent tous.
Par exemple, donnez-nous quelques exemples de certains cinéastes, des jeunes autochtones. Quels sont les sujets qu'ils traitent? Quels sont les enjeux qu'ils traitent dans leurs films, dans leurs courts-métrages?
Bon, les jeunes sont invités à compter les histoires qu'ils veulent au travers le projet de production Wapikoni Mobile. Donc, il y a multiples points de vue qui peuvent en ressortir. Tant qu'il peut y avoir des films à tendance de revendication sociopolitique, qu'il peut y avoir des explorations esthétiques. Donc, le programme est très, très intéressant. On a, par exemple, un film qui s'appelle My Father's Tools, qui est un film totalement muet, mais que tu vois un ouvrier travailler le bois. C'est très, très captivant comme image. Les images sont très, très bien faites. Il y a un film qui s'appelle c'est difficile j'ai de la misère à n'en choisir qu'un parce que c'est vraiment une diversité de films. On a Where the River Widens qui est un jeune de Gaspé qui parle de quand il part en bateau, les réflexions qu'il a. C'est vraiment beau les réflexions qui peuvent ressortir des communautés, des jeunes. Il y a beaucoup de poésie dans les films. Des fois, il peut y avoir des sujets lourds. Il y a un film qui parle excusez-moi, les mots, ils me manquent un peu. C'est que c'est un film qui parle de la communauté à Kitikandzibi. On a posé une piste d'atterrissage en plein milieu de la communauté sans consulter la communauté, dont une jeune femme parle de cette expérience-là de faire face à cette piste d'atterrissage qui a été abandonnée et puis qui a fait une grande plaie dans le territoire traditionnel de ses ancêtres. Le cinéma, c'est vraiment un beau moyen de pouvoir s'exprimer et puis donner des voix aux jeunes. Puis Wapikoni Mobile, vraiment, le fait. Je pense à Rien sur les mocassins. C'est une jeune femme qui essaie de consulter sa grand-mère pour faire un film sur les mocassins. Ah. De là, en ressort une discussion avec sa grand-mère sur des questions sociopolitiques, sur la question de partage de connaissances au travers le film. Puis je veux pas vous donner les punchs des films parce que ça vaut la peine de les voir par nous-mêmes. Puis d'ailleurs, si on peut pas rejoindre la caravane de projection d'un cinéma qui roule à la projection à Toronto, on invite le public à visionner certains des films à wapikoni.ca où il y a une belle sélection là aussi.
Oui. D'ailleurs, nous allons donner l'adresse de votre projection le 14 août prochain au Native Canadian Center of Toronto et c'est très, très proche du centre-ville et d'une chute de métro. Moi, personnellement, je profite de cette occasion, surtout dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. Il faut qu'il y ait un dialogue. qui se passe entre la communauté canadienne et les autochtones. Et je pense que la caravane qui roule, que j'aime bien ce titre, que j'aime bien ce mot, je pense que c'est une façon pour tous nos auditeurs, même si vous êtes à l'étranger, de vous apprivoiser de la culture autochtone. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, on m'a tapé sur la tête à l'époque, il ne faut pas enseigner seulement l'anglais et le français à nos jeunes dans nos écoles. Il faudrait bien penser à obliger nos gouvernements à enseigner aussi les langues autochtones dans nos écoles. Pensez pas?
Oui, absolument. Puis on est fiers de présenter une programmation en anglais, en français, puis en langue autochtone. Et puis, au travers des projections, on a des discussions avant et après. Puis c'est très intéressant, la volonté du monde qui viennent à ces projections-là, de vouloir davantage avoir ce contenu-là dans les écoles, dans l'éducation publique, dans l'éducation des nouveaux immigrants, comment c'est important ces voies-là, puis comment c'est des voies songées, c'est des voies qui sont réfléchies, qui sont pertinentes. Donc, c'est vraiment un beau projet en voulant dire que ça rejoint des objectifs à vouloir à une nécessité de créer un dialogue, parce que longtemps la culture, les voix autochtones ont été ont eu de la misère dans la société conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité là, puis je pense que ça se passe, c'est vraiment inspirant de voir ça arriver au travers l'expression artistique, puis je pense que ce que ça peut faire, c'est que ça peut planter une graine qui peut semer l'idée que les peuples autochtones, parce qu'on n'est pas juste un peuple, c'est vraiment une diversité de voix, ont une contribution très importante dans l'identité nationale, dans nos rapports nationaux, dans la construction d'un pays ensemble. Nos contributions civiles sont très importantes, donc c'est vraiment un beau projet de voir ça au travers le cinéma et la musique. Et puis vraiment, c'est des belles voix, hein. C'est l'expression artistique, c'est vraiment ça donne un autre moyen de pouvoir s'exprimer autre que les sciences ou la sociologie, etc. Je pense que c'est vraiment une belle manière d'approcher la question de comment apprivoiser la culture autochtone, ou la question de la culture autochtone, parce que c'est un très très grand sujet, puis on fait juste effleurer les questions identitaires, les questions qui peuvent en ressortir dans les communautés. Ça ouvre la discussion.
Ouais. La programmation de films autochtones imprimés Wapikoni, le cinéma qui roule, arrive à Toronto le 14 août prochain. Donnez-nous l'adresse spécifique et aussi, encore une fois, nous répéter le lien du site.
Oui, d'accord. On invite tout le monde à visionner les films au wapikoni.ca. Et puis, pour l'adresse, pour le Native Canadian Center, je ne l'ai pas tout de suite ici, mais je suis en mesure de vous le donner.
C'est sur la rue Spadina Road, et donc pas très loin de l'Alliance française de Toronto d'ailleurs, et c'est pas très loin de l'intersection Bloor et Spadina Road, c'est le métro Spadina, et c'est très facile, encore une fois, les gens peuvent aller sur le site Native Canadian Center of Toronto, et je pense que c'est à partir de 18h, donc il va y avoir une discussion après les projections.
Oui, c'est ça. On invite tout le monde de si on a des questions par rapport au film qu'on a vu, si on a des commentaires, c'est un bon temps d'ouvrir la discussion. Et puis c'est ça, la projection va avoir lieu à 18h. On invite tout le monde de venir visionner les films. C'est un programme d'à peu près une heure. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est ça, on a une discussion. L'adresse, c'est 16 Spadina. 16 Spadina. Mm-hmm.
Spadina Road, oui.
Oui.
Alors, je vous remercierai de notre part à Magenta Baribo qui fait un travail extraordinaire pour justement, merci pour tous ces communiqués de presse en français et c'est très très bien fait. Vous faites un travail extraordinaire à toute l'équipe. Je remercie encore une fois tous les gens qui vous entourent et qui vous aident, le gouvernement canadien aussi. On a vu un message de Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly qui aide, qui soutient ce projet. Il faut dire que c'est un projet fort intéressant, c'est assez innovateur comme projet. Et vous avez beaucoup d'autochtones, de jeunes autochtones cinéastes qui parlent français aussi autour de vous?
Mais au fait, Wapikoni, étant donné qu'on a commencé notre activité au Québec, c'était une jeune femme autochtone qui, malheureusement, a eu un accident de voiture. C'est très triste, cette histoire-là, mais cette femme-là, cette jeune femme avait vraiment une vision de partager la culture autochtone au travers le cinéma et la musique et les nouveaux médias. Donc, Manon Barbeau a vraiment cru dans sa vision et a rentré en partenariat avec le Conseil de bande d'Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations. Donc, au départ, une bonne partie des films ont été faits en français. Excusez le trafic. Ça a été fait en français parce qu'on a fait des liens avec des communautés autochtones en français. Mm-hmm. Au départ, il y a une bonne part des films en français. Et puis maintenant, on prend expansion au travers du Canada. C'est un modèle qui fonctionne. Les communautés en sont fiers de ce qui en ressort. Les films qui sont faits au travers de ça, c'est pas toutes qui se rendent à des festivals, mais ça, les communautés sont toujours très, très contentes et fières de voir leurs jeunes s'exprimer au travers de films. Donc, même si ça se rend pas toutes dans des festivals de films, c'est tout très pertinent et intéressant à chacun de leur manière. Puis on est vraiment honorés d'avoir le support et le soutien de multiples organismes culturels, fédéraux, et puis ça permet davantage de créer des ponts-là. C'est très important.
Merci infiniment, Jérôme Inutik, qui est responsable projectionniste animateur de Wapikoni. Et on se retrouve le 14 août. Madame, monsieur, mettez ça dans votre calendrier, sur votre agenda, à 18h au Native Canadian Center de Toronto, à ne pas rater. Et encore une fois, merci pour votre beau travail. Merci de nous avoir accordé du temps. Et bon succès, Jérôme Minot.
Oui, on continue notre tournée. on s'en va après ça vers Kingston. On visite d'autres communautés autochtones et d'autres villes. On s'en va vers le Québec après. Merci beaucoup de m'avoir sur votre émission.
Au revoir.
Ça fait plaisir. Oui, OK. Au plaisir. Salut.
Solution. 30 ans de radio, CUT 89,5 et Popourri Show vous remercie de votre fidélité.
Partage l'info avec la communauté contact au 03 20 26 8000.
Contact.
La radio Enjoy.
Contact.
La radio Enjoy.
Et oui, mesdames, messieurs, comme vous voyez, nous avons eu une émission assez palpitante aujourd'hui. Nous avons reçu aussi beaucoup de réactions sur notre dossier LGBT. Une réaction d'un auditeur internaute LGBT du Rwanda. Monsieur, être gay et faire son coming out au Rwanda, c'est se mettre la corde au cou. Souvent, je me demande si je dois me cacher, ne pas vivre ma sexualité et me mettre avec une belle fille classique pour vivre en paix. Alors bravo, on vous écoute en direct sur le web, très belle émission, bonjour à vos éditeurs canadiens. Et nous avons aussi en ce moment, ça se déroule en ce moment même qu'on parle, au Harbourfront Center qui présente la 4e édition du festival Abari Africa. Et ça a démarré vendredi, c'est appuyé bien sûr par l'équipe de CUT FM, ici même. Il y a des danses, concerts, arts visuels, des ateliers et le centre Harbourfront et le festival Abari Africa espèrent vous offrir une ambiance parsemée de rythmes entraînants, nous dit-on. Et puis le Musée Royal de l'Ontario célèbre Canada 150, Ontario 150, qui présente un événement culinaire exclusif qui fera valoir la diversité régionale de la cuisine canadienne. Donc le 15 août, il se passe beaucoup de choses. Cette semaine, les grands chefs canadiens vont préparer pour votre plaisir, plaisir du palais, madame, monsieur, au Musée Royal de l'Ontario, des mets délicieux qui ont influencé la scène culinaire du pays. Allez sur le site www.rome.on.ca et là, vous allez avoir les noms de tous ces grands chefs que je n'ai pas le temps de lire ici à l'antenne. Malheureusement, le temps passe. Merci beaucoup à Fougère Adolphe, DJ Devera, CNN Inside Out, Jérémino Inutik, RFI Magazine, ici Eric Kader. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine. On se voit dimanche prochain.
You make the kingdom easy. Yes, I tell you.
The music just turns me on. Run the track, run the track.
One way.
Make.
One way. CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Solo esta vez, oh, 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 oh.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.